Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme tous les samedis soirs pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Raveli Lemel, Shavua Tov.
Bonsoir.
Et nous allons, comme chaque semaine, survoler la paracha qui nous occupe cette semaine. On est donc vers un nouveau chapitre et on arrive à celui qui s'appelle Vayeshev. Dans ce chapitre, il y a une histoire qui est très étonnante parce qu'on voit Yuda pris dans une histoire avec Tamar, qui à ce moment-là apparaît comme une prostituée. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais parce qu'on est très étonné. On est très étonné de voir un personnage aussi considérable, tellement important, tellement juste, se retrouver dans une situation comme celle-ci. Et bien sûr que si la Torah nous la raconte, c'est qu'elle a des enseignements. Et c'est de cela dont vous voulez parler ce soir, Raveli Lemel.
Exact. En effet, on est une paracha dans laquelle on a cet événement qui est quand même un événement assez bouleversant. En tout cas, quand on en a une lecture extérieure, c'est cette fameuse rencontre de Yehuda avec celle qui s'appelle Tamar, sa belle-fille, et avec laquelle il va y avoir une relation. Et à partir de cette relation, d'ailleurs, eh bien, vont naître deux enfants, dont l'un d'entre eux sera à l'origine de la lignée du Messie. Alors évidemment, c'est une histoire extrêmement intéressante parce que on se rend bien compte que toute l'histoire du Mashiach arrive à travers des événements complètement improbables et surprenants. Quand on analyse le texte sur place, eh bien, on voit bien Vayet et Léa et la derrière. Le texte nous dit bien que c'est Dieu, au fond, qui est en train ici de pousser Yehuda à aller vers celle qui est Tamar. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se jouer. D'ailleurs, quand vous analysez plus en profondeur le texte, il y a ici comme une forme de vrai mariage qui se passe entre les deux. Mais ce qui est passionnant, au fond, c'est surtout ce qui va se passer lorsque Yehuda se rend compte que sa belle-fille, eh bien, est enceinte et il ne sait pas que c'est de lui. Et là, eh bien, Yehuda la condamne, il dit « c'est pas possible, il y a un acte de prostitution » et elle est là. Et le texte nous dit « Himutsed vishalchel chamia les morts ». Elle est posée là et elle envoie son beau-père. Là, les mots suivants, elle lui dit « voilà le message, c'est celui à qui appartiennent ces objets de qui je suis enceinte ». Car en effet, lorsque Yehuda s'était tourné vers elle, il lui avait donné des objets en gage pour pouvoir payer par la suite et puis elle disparaît, elle garde les objets. Elle dit, voilà, j'ai ces objets, ben c'est à celui à qui ça appartient, moi je ne sais pas. Et au fond, ici, Yehuda, il est face à une situation bouleversante, il se rend compte que, eh bien, c'est lui. Il aurait pu trouver une solution de secours, dire, bon, écoutez, il y a donc ici enquête à mener, nous allons revenir sur le dossier, nous allons reprendre les éléments, et puis on vient voir, et puis après, bon, ben, on n'en parle plus. Et le texte nous dit que Yehuda est en train de faire quelque chose qui, a priori, est censé le fusiller complètement. C'est-à-dire, c'est la fin de sa carrière, on aurait dit chez nous. Il dit, ben oui, elle a raison, c'est moi. Vous imaginez un petit peu, il est là, il reconnaît. Il reconnaît qu'en effet, eh bien, il s'est trompé, pas seulement il s'est trompé. Alors, c'est pas une faute dans le sens transgression tel qu'on le comprend, nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il reconnaît son erreur. Et au moment où il reconnaît son erreur, on peut dire ça y est, Yehuda, mais c'est terminé, on le met de côté. Et c'est là où justement toute l'histoire de Yehuda commence, et c'est de là que commencer la lignée du Messie. Pourquoi ? Parce qu'il a cette capacité de son côté de reconnaître qu'il a pu faire une erreur et de ne pas avoir peur et de l'assumer. Cette notion de Tzadka Mimeni, et d'ailleurs c'est ce que dans les bénédictions qu'on donnera à Yehuda, il y aura marqué « Yehuda, ata yoducha achecha ». Yehuda, eh bien, toi en vérité, tu vas accéder à la dimension du Olam Haba, du monde à venir, parce que justement, tu n'as pas eu peur de reconnaître devant les autres l'erreur qui était la tienne. Alors évidemment, ça nous interpelle parce que, imaginez dans nos sociétés quelqu'un qui serait capable d'avouer devant tout le monde qu'il a fait une erreur, généralement, eh bien, cette personne sera clouée au pilori. La grandeur de justement Yehuda, mais surtout de ceux qui l'entourent, c'est de voir dans cette reconnaissance d'une erreur l'expression d'une réelle grandeur qui justement va être à l'origine de ce qui pourra amener la royauté du roi David et donc le Machiach. Ça, c'est au niveau de Yehuda. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous savez que parmi les très, très grands maîtres de la pensée juive, il y en a un qui s'appelle Rav Yisrael Salanter. Rav Yisrael Salanter était un génie absolu et quelqu'un qui a beaucoup développé l'étude du moussar, c'est-à-dire l'étude de tout ce qui a trait au domaine de l'éthique. Et c'était aussi un Talmid Chacham, quelqu'un qui avait une connaissance en Torah gigantesque. Et on dit qu'un jour, il donnait un cours quelque part et une personne lui a posé une très bonne question. Et lui, évidemment, va dire, eh bien, la question est excellente, je remets en cause tout ce que je viens de dire. Et après cela, il a expliqué, il a dit, au moment où on m'a posé la question, j'ai eu 3-4 réponses immédiates qui sont arrivées en tête. Et elles auraient pu satisfaire les gens. Mais je savais que dans l'absolu, elles n'étaient pas vraies. Alors j'ai reconnu que la question est excellente. Ah, maintenant, les gens vont penser que je suis peut-être moins brillant. Et peut-être que ça va avoir un impact sur la suite de mon discours dans certains domaines. C'est plus mon problème. Voilà un petit peu déjà cette capacité de Roda. Mais de l'autre côté aussi, on a quelque chose d'incroyable. On a Tamar. Tamar qui est là, qui dit « Moi, je dis rien ». Et Tamar ne dit rien. Et elle sait très bien que les conséquences pour elle peuvent être extrêmement dures. Elle va être condamnée. Et de là, nos maîtres apprennent qu'il vaut mieux parfois pour une personne de se laisser aller tomber dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à quelqu'un en public. Et c'est vrai que c'est quelque chose de bouleversant, de voir que, elle dit, eh bien, moi, je ne ferai pas honte à quelqu'un en public, je ne dirai pas, c'est lui, je ne pointerai pas de doigt accusateur sur lui. Ô combien aujourd'hui, dans nos générations dans lesquelles on voit qu'on est à l'affût des moindres petites choses pour justement, en public, vilipender, et c'est exactement le contraire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, eh bien, elle va être celle qui va amener aussi le Machiach. D'ailleurs, il y a un très bel enseignement dans le traité de Ktuvot. Il y avait un maître qui s'appelait Mar Oukva. Mar Oukva avait dans son quartier une personne qui était pauvre et chaque semaine, eh bien, il glissait discrètement à l'entrée de chez lui quelques pièces d'argent, 4 pièces exactement d'une Talmud. Et puis après, il s'enfuyait. Le pauvre les retrouvait chaque semaine et puis une semaine, il s'est dit « Non, non, je veux voir qui est-ce ». Et donc, il se cache et lorsqu'il voit eh bien, que les pièces arrivent, il sort et Mar Oukva s'en rend compte, alors il s'enfuit. Il court très 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 vite avec son épouse, et son épouse et lui, eh bien, pour ne pas être reconnus de ce pauvre, vont rentrer dans un four. Dans un four, vous savez, ces grands fours à pain, dans lequel il fait très chaud, dans lequel il se brûle un peu les pieds. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas lui faire honte. Mais quelle honte ! Quelle honte ! Les pauvres, on lui donne de l'argent. Non ! Parce que leur finesse, leur délicatesse, c'est qu'on va le rencontrer de nouveau. Et on ne veut pas qu'il se sente gêné par rapport à nous, de réaliser que c'est nous qui lui apportons. Voyons jusque où vont les choses. Dans cette dimension de raffinement extrême, dont vont faire preuve d'un côté Yehuda et de l'autre côté Tamar. Yehuda, dans cette capacité à reconnaître. Et d'ailleurs, on le voit bien, Yehuda, c'est Yehudi, c'est le juif, c'est la reconnaissance dans la double acceptation de son terme. Et à la fois, je reconnais, je dis merci, je reconnais ce que l'on m'apporte, et en même temps, je n'ai pas peur de reconnaître mes erreurs, mes dysfonctionnements, mes faiblesses, au fond, tout ce qui fait de nous un être humain qui a besoin d'avancer, de progresser. Mais on ne peut le faire que dans un monde qui comprend que reconnaître son erreur, c'est l'expression d'une grandeur réelle, avec cette interrogation sur ce qui se joue dans nos générations. Et de l'autre côté, eh bien, Tamar qui est cette femme qui a un courage incroyable parce qu'au fond, elle aurait pu dire, vous savez, c'est lui, et puis ça suffisait. Elle dit non. Cette notion de malbin connaît Chavero Marabin, de ne pas faire honte à quelqu'un en public. Nos maîtres disent dans le Talmud que quelqu'un peut transgresser un interdit, d'avoir une relation interdite, mais il peut, s'il fait tchouva, eh bien, avoir accès au monde futur. Par contre, quelqu'un qui fait honte à une personne en public, celui-là ne peut pas avoir accès au monde futur parce qu'il a détruit véritablement quelqu'un. Voici ces leçons extraordinaires que ces deux personnages nous donnent dans cet événement qui est très très surprenant, très bouleversant, qu'il faut étudier avec profondeur parce que vous vous rendez bien compte que si la Torah nous relate cela, c'est qu'il y a pour nous un enseignement formidable. Le Machiach va aboutir d'un monde dans lequel la préoccupation que l'on a de ne pas faire de souffrance à l'autre, de ne pas lui faire de peine, de ne pas lui faire de honte, et ce, quelles que soient les situations, eh bien, est au cœur de son arrivée dans ce monde, à nous de savoir nous en inspirer tout simplement.
Ravelli Lemel, on va essayer effectivement de réfléchir, c'est tellement important dans notre monde où tout se voit, tout se dit, les téléphones, les vidéos qu'on partage. Alors oui, essayez de ne pas humilier quelqu'un en public, c'est très important. Merci pour ces belles paroles et ce bel enseignement. Shavuot Tov.
Shavuot Tov.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai et Shavuatov.
Shalom Aleichem, Shavuatov et mon cher Bernard, Mezat Hashem, que nous ayons des bonnes nouvelles.
Alors vous Rav Mordechai, vous voulez intervenir sur la personnalité de Yosef qui, en fait, dites-vous, est la continuité de Yaakov dans le sens où c'est le juif de l'exil. Donc on a vu, d'ailleurs on vous a entendu la semaine passée intervenir sur cette question, mais Yosef vraiment c'est l'homme juif en exil avec deux enfants qui sont nés en exil en Égypte et comme à chaque fois j'ai envie de dire, il est un exemple pour nous, un exemple à suivre, comme à chaque fois avec la Torah, Maaseh Avot Siman Labanim, et on va comprendre d'abord déjà ce que veut nous enseigner la Torah et ensuite comment nous on peut se comporter face à l'exil, en espérant, évidemment, avec vous, que celui-ci se terminera le plus vite possible.
On continue donc notre réflexion sur Parashat Vayeshev. On est sorti ce Shabbat de Parashat Vayishlach. Cette semaine, maintenant, on rentre dans la Parashat Vayeshev. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Parashat Vayeshev ? Bah, il se passe qu'on découvre, donc, cette fois-ci, ce que nos sages appellent une des sources de l'exil. La mésentente entre Yosef et ses frères, qui devient un conflit, puis qui après devient une espèce de guerre familiale. Et donc Yosef est vendu par ses frères, et donc il se retrouve en Égypte. Alors, il faut se rappeler que Yosef, dans l'esprit de Yaakov, était en fait son continuateur. Rappelons-nous qu'au départ, lorsque Yaakov se marie, il pense épouser Rachel, et il pense donc, quand il va avoir cette relation intime avec elle, il pense donc, en quelque sorte, permettre la naissance d'un fils aîné qui va être son continuateur. Et ce fils aîné devait être Yosef. Et donc, finalement, les plans ont été bouleversés par Laval. C'est donc Réhouven qui va naître comme premier fils de Léa, mais plus tard, Rachel va donc donner naissance à Yosef. Et Yosef, c'est celui auquel Yaakov va tout donner. Il va donner sa Torah. Alors, de quelle Torah s'agit-il ? On se rappelle que Yaakov, avant de s'enfuir chez Laval, est resté 14 ans à étudier chez Éver. Éver étant le petit-fils de Noar. Qu'est-ce qu'il a appris chez Éver ? Il a appris comment se comporter en exil face à Laval. Pourquoi ? Parce que Éver avait connu la génération qui avait fabriqué la tour de Babel. La génération qui avait fabriqué la tour de Babel était une génération extrêmement sophistiquée sur le plan technologique, extrêmement pointue sur le plan intellectuel, mais très dépravée. Et donc, il s'agissait d'apprendre comment tenir dans un contexte qui était un contexte d'idolâtrie, un contexte de perversion intellectuelle. Et donc, avant de partir chez Laval, qui était un manipulateur, qui était un menteur, qui était un pervers, à la fois sur le plan personnel, mais en même temps sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique, on pourrait dire aujourd'hui. Donc, avant de se rendre chez Laval, il va donc passer du temps chez Éver, qui a connu les gens de la tour, de la génération de la tour de Babel. Et donc, Yaakov, en fait, a appris la Torah de l'exil. Il a appris la manière dont un juif peut résister à la fois à la violence de l'exil, c'est-à-dire les périodes de persécution, mais en même temps à la perfidie, à la perversion intellectuelle et morale dans laquelle on veut le faire tomber, en même temps aux séductions de l'exil. Parce que toutes ces phases-là, il va les passer chez Laban. Et donc, il l'enseigne à Yosef. Pourquoi ? Parce qu'il a la préscience que Yosef va se retrouver lui-même en exil et en quelque sorte va préparer l'atterrissage du peuple juif en exil, puisque depuis Avraham, on sait que Le peuple juif devait passer par une terre étrangère dont il sortirait et à partir de laquelle il pourrait recevoir la Torah et rentrer après plus tard en Eretz Israël. Et donc c'est Yosef qui va préparer le terrain. C'est ce que Yosef a reçu, donc a reçu de Yaakov. Alors, chez Yaakov, on a vu sa résilience au niveau spirituel. C'est ce qu'il va dire à Lavan. Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan. Garti, ça veut dire j'ai habité, c'est le même que Tariag, qui veut dire 613. J'ai habité avec Lavan, mais j'ai gardé les 613 mitzvot. Là, ici, avec Yosef, on va voir autre chose. On va voir un jeune homme de 17 ans, beau, intelligent, qui réussit, et qui se retrouve livré à la perversion. L'empire égyptien, par nos sages, est donc décrit comme un empire de perversion sexuelle, un empire de débauche. Et donc un jeune homme de 17 ans, très beau, eh ben, se retrouve lié à un milieu dans lequel on pratique l'homosexualité, la débauche, les tromperies, les femmes ne sont pas précisément fidèles à leur mari. D'ailleurs, nos sages nous disent qu'en Égypte, les femmes donnaient plusieurs contrats de mariage à plusieurs hommes. Et une femme pouvait se marier avec plusieurs hommes. Donc on est aussi dans un univers dans lequel les barrières de tzniout, de pudeur ont été complètement abolies. Et Yosef, donc, Yosef se retrouve là-bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode, c'est la paracha de Vayetse, on a raconté l'histoire de la naissance des enfants de Yaakov. On nous raconte que lorsque Rachel a mis au monde Yosef, à ce moment-là, nous dit Rashi, Yosef, c'est celui qui peut s'opposer à Esav, il peut s'opposer à Esaü, donc qui peut revenir. Et effectivement, donc, c'est-à-dire que Yaakov va pouvoir revenir en Israël. Et on va voir que lors de la rencontre entre toute la tribu de Yaakov et Esav, au moment où Esav s'approche de Rachel, Yosef se dresse devant Esav et l'empêche de regarder sa mère. Pourquoi ? Parce que le regard sale, le regard de Aïnara, le mauvais œil, le mauvais regard, les mauvaises pensées qui habitent chez Esav sont de nature à altérer donc sa mère. Et donc en fait on voit que Yosef c'est celui qui est capable simplement par son attitude de s'opposer à toutes les tentatives de perversion et de destruction. Et ici en Égypte, quand il est entre les mains de Potiphar, de la femme de Potiphar qui va tenter de le séduire, d'accord, en quelque sorte livré en pâture à la haute société égyptienne, on voit qu'il va rester dans sa pudeur, qu'il va rester dans sa droiture, qu'il va rester dans sa sainteté, qu'il va rester dans la Torah que son père lui a enseignée, qu'il va rester fidèle à Yaakov, qu'il va rester fidèle à Israël. Alors la question qui se pose, c'est comment il a pu faire une chose pareille. La réponse, elle est très simple, elle s'appelle l'éducation. Et d'ailleurs, il va avoir deux fils, Ephraim et Ménaché, et lorsque le vendredi soir, nous bénissons nos fils, nous leur souhaitons d'être comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi pas comme Yosef? Pourquoi pas comme Yaakov? Pourquoi pas comme Yitzhak? Parce que Ephraim et Ménaché sont les deux premiers enfants juifs nés en exil, dans l'atmosphère de perversion égyptienne, et qui sont restés fidèles à leur père Yosef, à leurs ancêtres, à leur héritage, à leur judaïsme, à leur Torah, à leur sainteté, qui sont restés droits sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan idéologique, on dirait aujourd'hui, sur le plan spirituel. Et donc il y a ici, il y a un message qui nous est donné, qui est un message de résilience. Et c'est intéressant parce que, autant Yaakov, c'est quelqu'un qui doit affronter, on va dire, l'entourloupe, la ruse, et donc d'une certaine manière la confusion, autant Yosef, c'est quelqu'un qui est exposé à un modèle de destruction spirituelle qui s'appelle la mutilation. C'est-à-dire que le juif, finalement, est invité à se mutiler sur le plan moral, et donc à adopter les mœurs et les us et coutumes d'une civilisation complètement dépravée. Et en fait, dans un certain cas, quand on lui demande de céder à des séductions intellectuelles, idéologiques, celles de l'idolâtrie, on lui demande de céder finalement à la confusion. Mais ici, ce à quoi on lui demande, c'est de se mutiler. C'est tout simplement de ne pas du tout être lui-même, d'abolir en quelque sorte ce qui fait le socle de sa personnalité. Là, Yosef, il va complètement refuser. Voilà, donc ici, un modèle qui est un modèle très intéressant parce que le peuple juif n'a jamais livré de combat, vous voyez, de combat violent, de combat impérialiste ou ce genre de choses. Et c'est pas du tout. La Torah ne nous demande pas du tout, au contraire de l'islam par exemple, parce qu'on a ce problème aujourd'hui avec l'islam, d'accord ? On ne demande pas du tout de conquérir les esprits ou quoi que ce soit. La Torah, ce qu'il demande, c'est d'être. Et Yosef, il a été. C'est tout ce qu'il a fait. Et il a suscité finalement, à la fin de son aventure, l'admiration de toute l'Égypte. Il est devenu le vice-roi d'Égypte, mais n'a jamais cherché à convertir qui que ce soit, n'a jamais cherché à imposer ses vues, n'a jamais cherché à assujettir qui que ce soit, et c'est finalement là l'aventure du judaïsme au milieu des nations du monde. La Torah ne nous demande pas d'imposer nos vues ou de faire partager nos vues. La Torah nous demande d'être et de susciter par là l'intérêt. Et à partir de là, bah, celles et ceux qui veulent se joindre à l'aventure peuvent le faire. Mais ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être. L'objectif de la Torah, c'est de donner une armature pour être. Voilà. Et que cet être puisse effectivement servir de modèle moral aux nations du monde. Il ne s'agit pas ici de convaincre et d'assujettir qui que ce soit. Et je crois que c'est fondamental, parce que c'est une dimension qui renvoie le juif au travail qu'il doit faire sur lui-même. Fondamentalement, le juif est invité à faire un travail sur lui-même avant de chercher à faire un travail sur les autres. Et c'est ce que Yosef nous apprend en exil. D'abord, il va se maintenir, d'abord, il va faire un travail sur lui-même, et grâce à ce travail qu'il fait sur lui-même, ses deux enfants vont suivre. Voilà.
Voilà. Merci, Rav Mordechai Biton à Jérusalem. Je vous souhaite Shavua Tov à la semaine prochaine, en espérant, pourquoi pas, que la semaine prochaine, l'exil sera terminé. Bonsoir à vous.
Shavua Tov à toutes et à tous. Bezrat Hashem, on se souhaite, encore une fois, d'avoir des bonnes nouvelles.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shavua Tov.
Bonsoir Shavua Tov.
Rav Gué, on va parler de la fête de Hanouka avec vous. Et vous voulez nous dire que Hanouka, c'est aussi la fête de la loi orale. Pourquoi est-ce que c'est aussi la fête de la loi orale?
Alors il faut expliquer d'abord la première chose, c'est que la Torah écrite et la Torah orale ont toutes les deux ont été données à Moshe au Sinaï, comme le dit la Gemara dans Brachot, et elle apprend à verser, c'est clair que la Torah écrite et la Torah orale ont été données à Moshe au Sinaï. Simplement, il y a eu un développement particulier à partir de Hanouka, et ce développement, je voudrais l'expliquer. D'abord, il faut comprendre que les Grecs sont un peuple de gens très intelligents, une partie en tout cas de grands philosophes, et qui ont tenu tête aux rabbins, comme le dit la Gemara dans Brachot, page 8, et effectivement, il fallait leur répondre avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de doigté. Il se trouve que la Torah orale laisse beaucoup la place à ce qu'on appelle la chokhmah, c'est-à-dire à la réflexion, à l'analyse, à la sagesse et à la pensée. Puisque, pour ceux qui ont déjà étudié le Talmud parmi vous, savent que c'est assez ardu. Il y a plein de questions, de réponses, d'analyses. Ça demande un vrai effort intellectuel. Et donc, l'homme, c'est-à-dire les commentateurs et déjà les rabbins, on parle, c'est des rabbins qui s'expriment. Sauf que nous considérons que ces paroles ont été dites à Moshe au Sinaï, à Moïse au Sinaï. Sauf que, avec le temps, et surtout avec la période grecque, il y a ce qu'on appelle le chosher, l'obscurité qui est descendue dans le monde, c'est-à-dire une forme d'oubli, où en tout cas des discussions apparaissent. Les plus connus sont la famille Hillel et Shammai, donc Hillel, Beth Hillel et Beth Shammai, qui donc se disputent tout le temps sur des questions évidemment de Torah. Et évidemment, c'est pas personnel, c'est juste de ce que Marloket Shem Shammai, une discussion qui est désintéressée et qui pose donc énormément de problématiques puisqu'il y a des discussions sans fin. Alors pourquoi Hanouka? Parce que Hanouka justement, c'est le moment où on a pris le dessus sur la civilisation grecque, et donc Dieu a offert au peuple juif l'éclat de la Torah orale pour que dans l'obscurité, c'est-à-dire dans une période d'exil, puisque après les Grecs, ce seront les Romains, et c'est un exil très long et très dur qui va commencer. Donc à cause des Grecs, il a commencé à avoir une certaine oubli, mais cet oubli a donné la place à une analyse et à une discussion extrêmement fructueuse et qui a apporté une grande vitalité dans les lieux d'études, puisque vous savez, lorsqu'on rentre dans une yeshiva, dans un lieu d'études, c'est extrêmement vivant, il y a énormément de discussions, il y a des oppositions au début, puis après on trouve la solution, mais énormément de difficultés à soulever, à répondre, à résoudre. Et ça, nos sages nous expliquent que c'est quelque part suite à l'oubli, donc à un côté c'est malheureux parce qu'on a oublié, mais en même temps, Elo ve'elo divrei Elokim Chaim, tous expriment l'expression du Dieu vivant, c'est dévoiler les différentes facettes de la vérité. Et à travers cette discussion enrichissante, eh bien justement, ça entraîne plus de, on va dire, d'implication personnelle, de réflexion, et donc ça donne beaucoup, beaucoup de richesse à la Torah. La Torah s'élargit grâce à la Torah orale qui est donnée aux hommes et qui en même temps, on doit respecter évidemment certaines règles, pas n'importe qui, pas n'importe comment, on ne peut pas dire ce qu'on veut, il y a des règles à respecter, mais en même temps une certaine liberté qui est donnée à une certaine une parole qui est donnée à la réflexion, à la pensée, à la svara, à la déduction, etc. Et tout cela, ça commence surtout à partir de Hanouka, où véritablement, on appelle ça l'éclat oral, c'est ce foisonnement de discussions et ce foisonnement d'études et d'approfondissement va se faire jour à ce moment-là. Je vous rappelle que Hanouka, c'est au milieu de la période du Second Temple. On n'est pas loin de la destruction du Second Temple, qui aura lieu donc entre 180 et 200 ans plus tard. Il va y avoir après l'exil de Rome. La fin du Deuxième Temple sera aussi problématique. Il y aura donc des grandes persécutions et des difficultés. Et il faudra absolument résister. Alors, la Torah a trouvé pour nous faire résister, permettre de résister, justement, nos synagogues, mais aussi nos lieux d'études, qu'on appelle le Beit HaMidrash. Les Yeshivot sont des lieux dans lesquels, effectivement, la discussion est omniprésente, mais qui sont en même temps le lieu dans lequel, véritablement, on a la vie juive, la Torah vivante, puisqu'on appelle ça la Torah vivante. Elle est plus que vivante, puisque encore aujourd'hui, vous rentrez dans un lieu où il y a des jeunes de 18 à 22 ans qui étudient avec une force et avec un enthousiasme, alors que c'est une Torah qui a 3300 ans, que beaucoup d'eau a passé sous les ponts, le monde a évolué, et quand même, c'est toujours d'actualité. Ça veut dire que vous pouvez traduire les sujets utilisés par la Gemara dans des termes modernes, actuels, et en prenant part, vous prenez parti, vous avez ici une approche personnelle, et puis votre chaver, votre binôme, il pense autrement, et donc tout ça, ça permet au peuple juif d'avoir une vie, une Torah vivante. Et cette Torah vivante, cette Torah qui évolue, qui s'adapte aussi en fonction, évidemment, des découvertes scientifiques et technologiques, avec toutes les problématiques que ça pose. Là, il y a quelques instants, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui avait un problème de frigidaire le Shabbat. Est-ce qu'on pouvait l'ouvrir, pas l'ouvrir, les lumières qui s'allument, la ventilation qui commence. Alors vous imaginez bien que les frigidaires, ça n'existait pas à l'époque de la Gemara, et pourtant, on arrive à trouver des solutions grâce à cette analyse profonde et vraiment très approfondie des lois du Shabbat, en comprenant le sens des choses, et l'analyse des choses nous permet de trouver des solutions aux problématiques modernes. Donc tout ça s'est développé, surtout à partir de l'époque de Hanouka, et aujourd'hui encore, jusqu'à la fin des temps. Et cette recherche de la vérité, le Ramchal, dans son livre Adir Bamavam, donc un livre de Kabbalah, il dit qu'en fait, ces questions, ces difficultés qu'il faut résoudre, c'est faire reculer l'obscurité du monde. Lorsqu'un juif se fait des efforts, s'investit, essaye de trouver la vérité dans toute cette masse de questionnements qui se trouvent dans la Gemara, finalement, il fait un peu reculer l'obscurité dans le monde parce qu'il recherche la vérité, il recherche la lumière, il recherche. C'est ce qu'on fait, ce qu'on représente, les lumières de Hanouka, faire la lumière dans l'obscurité. Et qu'est-ce que c'est faire étudier une Gemara? C'est très obscur au départ. Au fur et à mesure qu'on avance et qu'on analyse, eh bien, on découvre la lumière qui se trouvait cachée dans cette page, on va dire, qui n'a pas changé depuis des centaines et des centaines d'années, et qui commentait d'ailleurs, un petit cocorico en passant, sur chaque page de Gemara, vous avez Rashi à droite, Tosafot à gauche, et en fait c'est les rabbins français qui sont un véritable star de la Gemara, qui est donc babylonienne, comme vous le savez, et tout ça nous permet de dévoiler la lumière dans l'obscurité. Chaque question résolue, chaque chidouche, c'est-à-dire nouveauté, compréhension nouvelle, nous permet quelque part de faire reculer l'obscurité et nous rapprocher de la lumière. Et c'est en fait un travail sur soi-même, un travail que Dieu attend de nous, c'est de faire en sorte de faire jaillir la lumière, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la vraie pensée de Dieu dans les différentes situations et problématiques d'un être humain au quotidien. On est justement en période d'obscurité, et parce que les événements nous mettent dans une certaine obscurité, nous sommes dans une période d'obscurité parce que les nuits sont longues, et bien le moment est venu d'allumer les bougies de Hanouka pour donner un peu de lumière, et surtout de l'espoir, et espérer de grands miracles en Eretz Israël, dans la bande de Gaza, dans le monde entier, et qu'on entende véritablement des Yishuot, c'est-à-dire qu'on soit sauvé très rapidement. Mais tout cela se fait et par, évidemment, la guerre sur le terrain, et on est tous avec nos soldats, et en même temps, dans le Beit HaMidrash, à travers l'étude, puisque depuis toujours, l'étude et la prière étaient complétées, le travail sur le terrain, la guerre sur le terrain. À l'époque de David déjà, il y avait déjà deux parties dans l'armée, une armée qui faisait la guerre et une armée qui priait, étudiait pour la réussite de ceux qui sont sur le front. Alors, qu'on soit tous mobilisés pour faire reculer cette obscurité terrible que le Hamas et que l'obscurité en général est dans ce monde, pour que la lumière puisse jaillir.
Eh bien, on va le souhaiter avec vous, Avgué, et sous votre contrôle, je précise que l'allumage des bougies se fait... on doit rester un petit moment à côté, que ça c'est quand même une bonne chose à faire, mais évidemment, c'est sous votre contrôle. Il y a même d'ailleurs un temps minimal où il faut rester à côté des bougies, on va dire une demi-heure à peu près, 20 minutes, une demi-heure, et pourquoi pas à cette occasion-là, prendre un petit livre, un Tehillim, aller lire des choses... sur l'histoire de le Sefer Bereshit, c'est juste magnifique. On peut apprendre des tas de choses sur nos pères. Et voilà, tout ça aussi en pensant à nos frères qui sont en Israël. Je sais que j'ai votre bénédiction quand je dis ça.
Alors, je vais vous dire un témoignage. Alors, si truc, Zichrono Livracha, cette salle, il était justement, il faisait très attention de rester la demi-heure en face des bougies de Hanouka, effectivement. C'est pas une obligation. C'est bien de le faire. Mais c'est pas une obligation, mais c'est toujours très bien de le faire. Comme vous dites, à ces moments-là, on est près des bougies, c'est un moment de Shaat Ratzon, un moment d'agrément divin, puisqu'on fait une mitzvah, et que, tout simplement, elle est tellement proche de notre situation d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'obscurité, nous recherchons la lumière, et nous espérons que, justement, cette lumière et spirituelle et matérielle va rejaillir bientôt. Donc faisons nos prières, nos Tehillim, étudions un petit peu le sens de Hanouka, comprenons un peu ce que ça veut dire et ce que ça représente. Attention-nous à la Torah orale et essayons véritablement d'être, on va dire, fidèles à cette tradition ancestrale qui d'ailleurs a toujours eu beaucoup de succès hein, dans le monde entier. Même des Juifs non pratiquants le font. Et ils sentent bien que c'est quelque chose qui nous réunit tous, cette volonté de faire jaillir la lumière spirituelle du peuple juif pour résister à toutes les vicissitudes de l'exil.
Et ils travaillent sur la planche en ce moment.
Voilà.
Donc une demi-heure voilà, à côté avec... et pourquoi pas regarder une vidéo du Rav Citruc, on peut tout faire.
On peut tout faire.
Moi je sais que c'est une idée que j'aime beaucoup. C'est d'abord déjà les bougies, de toute façon c'est une bracha dans la maison. Puis ça porte un apaisement. Et vraiment cet apaisement-là, à ce moment-là, faites-le. Je vous le recommande. C'est vraiment en famille,
en
avec
famille,
les
voilà,
enfants,
en famille,
avec
en
son
famille.
Épouse. Moi, je suis un homme, donc j'ai mon épouse, mais avec, ou avec son époux. Et c'est vraiment c'est un très beau moment. Rav Gué, je vous remercie. De nouveau, Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et on en profite pour se dire de bonnes fêtes, bien sûr.
Chanukah.
Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy mei, Hashem lo yine bayis. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy mei.